Des amours malades, chapitre 15. Michael était venu me chercher comme prévu. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. La neige fondue s'écrasait mollement sur le pare-brise où les essuie-glaces venaient la balayer à intervalles réguliers. Michael avait réglé le passage des balais sur 6 secondes, et pendant ces 6 secondes, le paysage extérieur s'estompait peu à peu, pour redevenir tout à fait net, l'espace d'un instant, et disparaître à nouveau. Je me sentais un peu comme ce panorama aux contours changeants. Un moment, j'avais clairement en tête ce que je devais dire et faire. J'étais certain qu'avoir décidé de parler avec Michael était une bonne décision. L'instant d'après, tout m'apparaissait brouillé. Je ne comprenais plus pourquoi je m'étais mise en tête de dévoiler à un tiers mes secrets les plus terribles. Je gardai un silence pensif que Michael ne brisa pas. Je fis rapidement le tour de mes patients puis me rendis en salle d'endoscopie. J'essuyai quelques plaisanteries au sujet du malaise de la veille. Je dus lutter contre l'image du pauvre gamin martyrisé et faire un effort pour me concentrer sur mon travail. La matinée passa toutefois rapidement et je m'autorisai une pause café avant de remonter dans mon service. Le bar avait déjà rempli ses vitrines frigo de nombreux sandwichs et de plats tout préparés. Il proposait encore des parts de galettes des rois, bien que l'épiphanie fût passée depuis une dizaine de jours. Quentin raffolait de cette viennoiserie. J'étais persuadée qu'il aimait mieux le rituel de la distribution des morceaux du gâteau, quand caché sous la table il adjugeait à chacun son morceau, plutôt que le dessert proprement dit. Mais il finissait toujours consciencieusement ce qu'il avait dans son assiette, même après la découverte de la fève. Je terminai le café pris au distributeur, puis jetai le petit verre en plastique dans les grands cartons poubelles et regagnai à pied la médecine. Mehdi m'expliqua que l'assistant était occupé en salle de soins à visiter une patiente à peine arrivée du SAMU. Quand je demandai le pourquoi de la salle de soins, Mehdi me répondit qu'il n'en avait aucune idée. Je décidai d'aller voir si Michael avait besoin d'aide. La salle, comme son nom l'indiquait, était destinée aux soins divers, pansements, injections, préparation des perfusions, des transfusions, et était le domaine des infirmières, rarement le nôtre. Je refusais d'imaginer que le service des urgences était permis de nous envoyer un malade dans un état tel qu'il nécessitait encore des attentions plus chirurgicales que médicales. Lorsque je pénétrai dans la pièce rigoureusement tapissée de carrelage blanc, Michael était en grande conversation avec une patiente que je ne connaissais pas. Je songeais que dans un hôpital régnait la loi des séries. Michael se retourna à mon arrivée. Il arborait un large sourire, mais ses yeux s'étaient voilés d'une grande tristesse. « Alexandre, je te présente Katia Richard. Katia était infirmière en hématologie quand j'y ai pratiqué mon internat. » Je serrai la main de la femme étendue sur les 3 lits de visite. Elle n'était revêtue que de son soutien-gorge et de ses slips. Je n'arrivais pas à lui donner un âge. Elle pouvait avoir 30 ans aussi bien que 60. Son corps, sinistrement décharné, avait une teinte indéfinissable. Ses membres maigres à la peau sèche faisaient un contraste effrayant avec son ventre tendu par l'ascite et l'hépatomégalie. Une circulation collatérale s'était déjà installée et étalait sur les flancs le lugubre parcours bleuâtre de ses veines qui s'étaient développées à cause de la maladie. Les pupilles, dont il était impossible de deviner la couleur, étaient noyées dans le jaune de l'ictère. De larges cernes creusaient ses pauvres yeux et rendaient encore plus pathétique cette tête sans cheveux. La main que j'avais serrée était sèche et possédait encore une grande énergie. Je souris à Katia, puis je ne sais pourquoi, mon regard se bloqua sur la dentelle de son soutien-gorge. Il s'agissait d'un ensemble d'une marque connue. J'avais assez fait les magasins avec elle pour reconnaître les griffes importantes des vêtements, qu'il s'agisse de dessous ou de dessus. La broderie était délicate, et sa blancheur éclatait sur la peau parcheminée de Katia. Les slips coordonnés étaient formés d'un simple triangle de soie retenu sur les hanches par une mince bande de la même dentelle immaculée. « Vous aimez les dessous féminins, docteur Mouret ?» me fit Katia en souriant. Sa voix était chaude avec l'accent chantant du sud. « Oui, non, je veux dire, si !»« Oh, Seigneur, vous allez me prendre pour un obsédé sexuel, » fis-je en rougissant. Michael me contemplait avec un air stupéfait. Je ne sais pourquoi, mais Katia me sembla une femme à supporter ce que j'allais lui dire et je me lançai sans trop réfléchir. J'apprécie les dessous féminins, c'est un fait, et les vôtres sont magnifiques, cela ne fait aucun doute. Mais en réalité, je crois que j'étais surpris par le contraste que faisait le blanc de l'ensemble sur votre peau. Katia sembla apprécier ma franchise et acquiesça d'un signe de tête, alors que Michael étouffait une espèce de grognement. Ne te fâche pas, Michael, conseilla Katia en lui posant une main squelettique sur le bras. Il a raison. J'ai acheté ce complet il y a quelques jours. Je ne savais pas de quelle couleur le prendre. Noir, non. J'ai toujours été habituée à mettre du clair à cause de la blouse. Même si les films nous décrivent comme toujours prêtes à folâtrer dans nos tuniques collantes, la réalité est autre. Bref, avec cette peau tout jurée, alors je me suis décidée pour le blanc. Le blanc va avec tout, dis-je d'un air doctoral. Exact, même avec ce jaune citron avarié. Marron grisâtre orange séché, proposai-je. Génial, s'écria Katia. Docteur Mouret, vous avez gagné. Vous vous amusez bien tous les deux, marmonna Michael. Comme des petits fous. Ton chef de service sait comment parler aux femmes. Je m'inclinai. Michael, tu le sais que je vais mourir. Quoi que tu tentes, ce n'est pas la peine d'en faire une maladie. Dites-le-lui, docteur Mouret. Appelle-moi Alexandre, proposai-je à Katia, alors que je passais directement au tu. Je tutoyais rarement les patients, mais cette femme était vraiment spéciale, et je voulais établir avec elle un contact privé d'artifice. Elle n'avait pas le temps pour les salamalecs. Je ne connais pas ton histoire, mais je présume que si tu dis que tu vas mourir, tu sais de quoi tu parles. J'ai toujours travaillé en hémato ou en cancéro. Effectivement, je sais de quoi je parle. Je te fais un résumé parce que Conrad est un sentimental et il n'arrivera pas au bout de mon anamnèse. Michael soupira et s'assit sur un tabouret d'acier dans lequel se reflétaient les placards blancs qui couraient le long des murs. Il posa le dossier de l'infirmière sur la paillasse, puis se mit à jouer avec son stylo plume. Il en vissait et en défissait le capuchon sans même regarder ce qu'il faisait. Il couvait Katia d'un regard où la compassion se teintait de rage impuissante. Il y a 18 ans, commença Katia, je me suis piquée en ôtant un cathéter veineux. Il provenait du bras d'une patiente leucémique, polytransfusée. Elle est morte 2 jours après. J'ai fait ma déclaration d'accident et je n'y ai plus pensé. Puis, quand la médecine préventive a commencé à rechercher systématiquement le virus de l'hépatite C, qu'on n'avait pas encore découvert quand je me suis piquée, mes examens revinrent positifs. J'avais sans m'apercevoir contracté cette hépatite. Je me suis surveillée régulièrement. J'ai même essayé l'interféron, mais rien n'y a fait. Le virus était du genre têtu. Fibrose, cirrhose et il y a 2 mois, une tumeur maligne. Ils ont voulu m'opérer. J'ai eu droit à une belle chimio, mais malheureusement, j'ai des métastases osseuses. D1 et D2. Des varices œsophagiennes qui ressemblent plus à une bombe à retardement qu'à autre chose. Un foie dont ne voudrait pas le chat de ma voisine. Et une ammoniémie qui, de temps à autre, me rend tout à fait idiote. Un mari et 2 enfants. Je vois. C'est clair, concis et inéluctable, dis-je avec effort. Si tu réussissais à le faire comprendre au docteur Conrad, ça m'aiderait beaucoup. J'ai été obligée de travailler mon mari et mes enfants au corps à corps pour les convaincre d'accepter de me laisser mourir. J'aimerais que l'ordre médical n'insiste pas plus qu'eux. Je suis ici parce que j'ai mal, pas pour autre chose. Trouvez-moi la bonne dose de morphine et renvoyez-moi à la maison. En fait, ce que j'aimerais, c'est que mon ammoniémie me rende suffisamment dingue pour que je ne m'aperçoive pas de mon état. Ne me donnez rien pour l'abaisser, s'il vous plaît. Mais ce qui m'enthousiasmerait vraiment, c'est que ces saloperies de varices explosent une bonne fois, rapide et indolore. Michael, si cela arrive, promets-moi que tu ne chercheras pas à me réanimer. Michael secoua la tête sans dire un mot. Ça veut dire quoi? Parle au lieu de rester muet comme une carpe. C'est moi qui meurs, Michael, pas toi, que diable. Promets. Je le promets, confirma Michael d'une voix assurée. Tu n'as pas besoin de t'énerver de cette façon. Je ne m'énerve pas, je te secoue. Tu sais, Alexandre, j'espère que tu ne lui passes pas tous ses caprices au petit Conrad, sinon tu ne t'en sortiras jamais. Quand il était interne, il nous faisait mourir. La précision teutonne associée à un cœur d'or, cela ne nous laissait pas beaucoup de temps pour respirer. Eh, j'ai peur qu'il soit encore aussi précis qu'il l'était et qu'il tienne encore beaucoup à ses relations avec ses patients. Quand vous aurez fini de parler de moi comme si je n'étais pas là, Katia pourra peut-être se rhabiller. Désolée si je te prive de ces magnifiques dessous, Alexandre, mais je n'ai pas envie d'ajouter une bronchite aux maladies que je devrais inscrire sur le certificat de décès. À la bonne heure. On fera quelque chose de toi, Michael. Je l'ai toujours dit, sourit Katia, en tendant une main pour que son amie l'aide à se redresser. Elle laissa échapper un cri lorsqu'elle fut assise et porta une main dans son dos. Elle pâlit, puis appuya son front à l'épaule de Michael, qui la soutint un instant sans ouvrir la bouche. Il caressa doucement la nuque dégarnie et attendit que la douleur s'estompât. Puis il aida Katia à passer une chemise de nuit et une robe de chambre. Nous l'escortâmes jusqu'à sa chambre. Elle marchait lentement, agrippée au bras de Michael. Nous la fîmes allonger avec précaution et Michael lui assura qu'il allait la faire mettre sous morphine immédiatement. Mon assistant donna ses ordres, puis nous décidâmes, malgré l'heure tardive, de descendre au self, même si nous savions que je n'aurais touché à rien. Je pris quand même un yaourt que je dégustai lentement, pendant que Michael mangeait sans grand appétit son filet de poisson. « Tu la connais depuis longtemps ?»« J'ai fait 2 ans d'internat dans le service où elle travaillait. Nous avons sympathisé tout de suite. C'est une excellente infirmière. Elle m'a appris beaucoup de choses, comme trouver les veines difficiles et les mots justes. Elle était de celles qui viennent le dossier à la main en te disant « Excusez-moi, docteur, vous avez écrit 2 mg. Vous entendiez 0,2, n'est-ce pas ?» Elle te permettait de sauver ta face de petit nouveau en t'évitant des erreurs mortelles. Je connais son mari et ses enfants. J'ai suivi sa maladie depuis le début. Elle m'avait dit que lorsqu'elle déciderait de mourir, elle viendrait chez nous. C'est le seul endroit où l'on te traite comme un être humain. En hémato, ils n'accepteront pas de baisser les bras. Pas avec moi. Avec quelqu'un d'autre, oui. Mais pas avec un membre du personnel. Ils voudront me sauver à tout prix. Elle a tenu parole et la voilà avec son caractère de cochon, résolue à me claquer dans les pattes. Je comprenais le langage brutal de Michael. Décider de ne plus rien faire est souvent beaucoup plus douloureux qu'agir. L'action évite bien souvent la réflexion. On prescrit, on ordonne et on continue à espérer en se leurrant. Arrêter tout traitement et accompagner un malade jusqu'au seuil de son monument funéraire est autrement épuisant. Renoncer à se prodiguer pour la guérison est contraire à l'instinct médical. Cela est pourtant souvent indispensable si l'on veut permettre à quelqu'un de s'en aller avec dignité. Nous le faisions souvent dans le service, mais je comprenais tout à fait les scrupules et la souffrance de Michael. Un patient était un patient, un proche était un proche. Je savais, pour l'avoir directement éprouvé sur ma propre peau, le désespoir qui vous étreint quand vous réalisez que vous êtes totalement impuissant à sauver une personne que vous aimez. Nous parlâmes encore un peu de Katia et des débuts de Michael dans le service d'hématologie. Puis la conversation revint à mes problèmes. Micha m'invita à passer la soirée chez lui afin que je puisse poursuivre le récit de mes déboires conjugaux. J'acceptai à la condition qu'il me laissât cuisiner le souper. Si ça te fait plaisir, je n'y vois aucun inconvénient. J'aurais voulu préciser que, plus que me faire plaisir, c'était indispensable si je ne voulais pas mourir de faim. Mais je n'eus pas le courage d'aborder le sujet et me contentai de confirmer qu'effectivement cela me ravirait.